Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
C'est la dernière heure avec Marc Madio, Sarah Pitkowski, les deux Fred, le Canu éveil. S'il n'en restera qu'un, ça a été annoncé en début d'émission. On va voir, il reste une heure, les amis.
C'est déjà fait, ça.
J'ai hâte de voir.
C'est déjà fait.
Oui, mais
il est où, Fred, le Canu? Je ne le vois plus, moi.
C'est parce que tu as la grosse tête, Fred.
Il est loin.
Les lois de la nature sont ainsi faites. L'humilité, l'humus, la terre. Attention à tomber, pas tomber trop fort pour toi, quand même.
J'ai envie de voir dans une cage d'AMM, tous les deux. Je ne sais pas qui gagne.
La cage.
Je pense que la cage perd.
Dans un instant, les GG sur le buzzer, la Formule 1 Grand Prix de Monza à 15h, évidemment, à suivre sur RMC. Lewis Hamilton a-t-il encore le droit à l'erreur? Mais en fin d'émission, bien sûr, vous allez jouer avec les GG dans les jeux du sport. Ce week-end, vous pouvez remporter votre Ghetto Blaster. Vous savez, vous pouvez écouter la radio, mettre des cassettes, des CD. C'est ce gros engin là, qu'aiment bien les fans de hip-hop. C'est de la marque Muse. Pour remporter votre Ghetto Blaster de la marque Muse et participer surtout aux jeux avec les GG, appelez le 3216 touche 4. Envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Vous le savez, c'est l'endroit où on partage un petit peu vos expériences pour comprendre un fait d'actualité. Tiens, les GG, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé cette semaine. Plusieurs interviews notamment. Interview très intéressante, tiens Marc, de David Gaudu, ton coureur, c'était mardi chez nos confrères de l'équipe. Voilà ce qu'il disait. Quand on a les Français derrière nous, on ne peut pas être battu, mais dans la difficulté, on a tendance en France à être parfois trop dur, parfois un grain de sel et ça part en vrille. Benoît Saint-Denis, le combattant MMA. La barre médiatique est parfois trop haute en parlant de la pression de combat en France. Les volleyeuses qui ont été battues en quart de finale cette semaine au Mondial, la pointue Iman Ndiaye, l'attention médiatique, dit-elle, nous a mise mal à l'aise. La question que je voulais vous poser, les GG, à travers vos expériences, c'est comment gérer le poids des attentes, justement, la pression médiatique ou même populaire qui s'installe. Entrez dans la discussion avec vos GG au 32-16. Tiens, on va commencer, Fred Le Canu, par toi, justement. La pression des attentes, hein, l'idée du vestiaire, évidemment, c'est d'aller sur votre expérience personnelle aussi pour comprendre. Comment gérer ça?
Gérer ça, la réponse, c'est prendre du recul. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les attentes, ce sont des histoires qu'on se raconte. Et les gens, en fait, projettent des choses sur l'athlète, projettent des choses sur le champion. Donc, pour moi, si tu veux, je l'ai vécu avec déjà, tu vois, il y a les parents. C'est-à-dire que tu as déjà les attentes des parents, les attentes du professeur, les attentes de l'enseignant. Parce que là, on parle du haut niveau, du très haut niveau. Mais dès le départ, en fait, il y a des gens qui gravitent autour du champion et donc qui ont leur représentation. Et ça commence par là, tu vois, un papa ou une maman qui pousse son enfant pour faire du foot pour gagner de l'argent, ou qui pousse par exemple son enfant à continuer son histoire parce que lui n'a pas été champion, par exemple. Tout ça fait partie des attentes des gens qui sont autour. Donc déjà, il faut prendre du recul vis-à-vis de ça. Et puis oui, le regard des gens, en fait, tu contenteras jamais les gens. Je te raconte juste une micro anecdote pour rigoler deux secondes.
Non,
je te parle de David Douillet, juste avant les Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Et David faisait du vélo, tu sais, parce qu'il se préparait, comme il était lourd sur les appuis, au lieu de quoi il fait du vélo, il le faisait très bien. Et pour te parler d'attente, voilà l'histoire, il s'éclate juste avant les Jeux. Et nous, en fait, on était les athlètes où on l'accompagnait pour sa préparation. Et on était dans un centre, comme il n'y avait pas énormément de moyens, un centre où il y avait aussi des gens qui étaient là en vacances, mais normal. Et David, en fait, il revient, il a plus de peau sur le dos, il est en double peau, il est blanc comme un linge de souffrance. Nous, on est déjà blanc parce qu'on sait qu'il va devoir rattraper toute la prépa derrière et qu'on va morfler. Il s'assoit à table, puis il n'y a pas un mot, il n'y a pas un bruit, rien. Et il y a un monsieur d'une table de derrière qui le voit, parce que David, il commençait déjà à être connu dans les médias, tu vois. Et il va le voir, il lui met une grande tarte dans le dos, il dit « Alors, ça va, David Douillet ?» Et là, tu vois David qui se décompose de douleur et qui répond pas dans son attitude à l'attente, tu vois, du gars qui était venu pour le féliciter. Et il nous regarde et dit « Eh oh, il est pas très sympa, en fait, David Douillet, tu vois. » C'est ça, en fait, si tu veux, que je veux te dire sur les notions d'attente.
En fait, t'as un problème dans le dos aussi, c'est pour ça que t'es pas très sympa.
C'est qu'en fait, c'est ça, l'attente. C'est que toi, t'as une représentation, tu le vois dans les médias, tu le dis, et là, et en fait, ça n'a pas correspondu à son attente, par exemple.
Tiens, David Douillet, le poids peut-être de l'attente qu'il y a eu pour toi, Fred, on va en reparler dans quelques instants, parce qu'on t'a présenté comme l'après-Douillet, en tout cas tu es arrivé après dans la catégorie, mais Sarah, sur le poids des attentes, dans le tennis, à Roland-Garros, à chaque fois vous êtes mis un peu sur le feu de projecteur à fond, il faut gérer, hein.
Oui, il faut gérer, surtout chez les hommes, hein, parce que ça fait depuis 1983 qu'ils attendent. Les joueuses françaises ont gagné d'autres titres du Grand Chelem depuis pour Amélie Mauresmo et Marion Bartoli. Non, le poids des attentes, il est pas évident dans un sport individuel où vous êtes sur une scène qui est le terrain de tennis et c'est sûr que Roland Garros, surtout à mon époque, c'était le coup de projecteur, c'est-à-dire que tout le reste de l'année il n'y avait pas autant de médias, autant de suivi, donc si tu veux t'étais un peu tranquille sur tout le reste de l'année et arrive ce tournoi de Roland Garros qui est un coup de projecteur énorme et c'est vrai que pour un Français, tu veux particulièrement bien jouer parce que t'as de la famille. Tout le reste de l'année, la famille ne te suit pas ou me suivait pas. T'as tous les entraîneurs et tout le staff fédéral qui, effectivement, puisque le centre national d'entraînement se trouve à Roland-Garros, tout le monde est là pour voir les matchs des Français. Plus tout le public qui forcément a envie d'encourager, donc t'as l'impression d'avoir un sac à dos qui est rempli de cailloux et que ce sac à dos est très lourd à porter. Et au-delà de ça, dans le tennis, c'est ce qui était pour moi très impressionnant, c'est que tu joues sur des terrains où t'as peut-être entre 400 et 3000 personnes, et pour peu que ton tirage au sort de Grand Chelem te fasse jouer une tête de série, et hop, tu te retrouves sur le cours central ou sur le Suzanne Lenglen et t'as 15 000 personnes.
T'en as souffert, toi, c'est ça, hein?
Ah, la première fois quand je rentre contre Aranxa Sanchez sur le central où j'y avais jamais mis les pieds, et c'est une erreur. C'est-à-dire que je m'entraînais à Roland-Garros tous les jours, je jouais sur les cours annexes tous les jours, mais j'ai pas le souvenir d'être allé m'entraîner sur le central, ce qui est totalement aberrant, même si les dimensions du cours sont les mêmes, le visuel est différent.
Ça change beaucoup, on se rend pas compte, nous, Sarah, par rapport à ça.
Ça change énormément parce que tes repères de placement, comme le cours est beaucoup plus grand, t'as l'impression que t'as plus de surface à courir, tu peux te mettre plus loin. Les yeux, c'est très important au tennis parce que tu dois capter les distances. Et là, tu te retrouves perdu sur ce grand court avec 15 000 personnes. Alors que d'habitude, tu joues face à devant 2 ou 3 000 personnes. Je rentre sur le central de l'US Open face à Martina Hingis. Moi, j'y avais jamais mis les pieds aussi. Donc forcément, les 2-3 premiers jeux, mais t'es pas dedans, donc t'as déjà perdu les 3 premiers jeux. Donc quand tu joues les numéro 1 mondial de leur discipline, enfin la montagne est quasiment insurmontable. Mais Roland Garros représente quelque chose de particulier pour un Français qui veut bien jouer. Donc
tu dormais pas bien, toi, à Roland Garros.
Tu dors pas bien, et 2, tu joues pas ton meilleur tennis. Et mon dernier Roland-Garros, je vous raconte la petite anecdote, le tirage au sort, donc je sais que je vais arrêter à la fin de l'année, je tire Serena Williams, donc je sais que je vais avoir un grand cours, et donc c'est le Suzanne Lenglen, et je joue dernier match de la journée. Mais qu'est-ce qu'elle est longue cette journée, tu l'as joué 10 fois ton match, et j'étais chez moi, je tournais en rond, je faisais le ménage, je lavais les carreaux, j'essayais de m'occuper pour pas...
Tu viens d'enlever du glamour quand même, hein.
Eh ben ouais, je lavais mes vitres, j'étais là, j'essayais de pas regarder les matchs de la journée, je voulais pas aller au stade à 11h ou midi, je suis rentrée sur le court, il était 18h, j'ai fini, il était 22h à la tombée de la nuit. Donc le poids des attentes, t'as la victoire, mais t'as aussi, quand tu joues Williams, c'est pas être ridicule.
Gérer le poids des attentes? C'est le vestiaire des grandes gueules du sport, Fred.
Bah alors, les attentes, moi je vois un peu près ce que c'est, parce que quand je suis arrivé, j'étais le premier garçon de plus de 2m10 qui pouvait courir, sauter, avait des bonnes mains et comprenait à peu près le basket. Donc forcément, tout le monde m'est tombé dessus, parce que on avait vraiment, alors on se rend pas compte maintenant, parce que maintenant on a plein de grands en équipe de France, sauf qu'à l'époque on n'en avait pas. Et donc on se disait, bah, les équipes qui gagnent ont un pivot de cette envergure. Maintenant c'est notre pivot, c'est notre go-to guy, ce joueur qui va nous montrer les choses. On m'a même surnommé The Answer. Pour te dire,
la réponse,
parce que justement on avait besoin de ce genre de choses. Et on m'a mis une pression folle tout le temps. En fait, quoi que je fasse, je n'arrivais pas à répondre aux attentes. Je me rappelle d'un petit événement. En 2001, je fais l'Euro de basket. Je me casse la main juste avant. Donc, je n'ai pas de préparation. J'arrive. Mes premiers matchs de préparation, c'est le premier match de l'Euro. Et donc, l'Euro, évidemment, se passe mal, parce que sans préparation, t'arrives, c'est un petit peu compliqué. Et donc, à la fin, je prends ma retraite et on me rappelle 4 ans après en me disant, Fred, il faut que tu reviennes. Et là, je reviens et je me pose dans la conférence de presse et je regarde tout le monde et je dis, je vais me donner à fond, mais le premier qui critique ma façon de jouer ou qui a un problème avec le fait que je sois motivé ou pas, il va en prendre une. Et donc, et là, les journalistes me regardent en disant, mais Fred, t'es devenu complètement fou. Non. En fait, j'étais pas devenu fou. C'est que j'en avais marre que on me reproche des choses que eux imaginaient. Et ma vie a changé le jour où j'ai compris que les attentes, c'est moi qui devais les fixer. C'est-à-dire que moi, je m'en foutais des attentes des autres. Toi, tu peux espérer que je sois Shaquille O'Neal, je ne serai jamais Shaquille O'Neal. Mais par contre, moi, j'ai des attentes. Et à partir du moment où j'ai décidé que les attentes, c'est moi qui les ai fixées, ma vie a changé, je me suis senti beaucoup mieux. Et je m'en foutais de ce que disaient les autres qui ne comprenaient pour la plupart rien au basket.
Marc, Madio, la gestion des attentes.
La gestion des attentes, à titre personnel, par rapport à ma propre carrière, moi, je le gérais d'une façon très simple. Par rapport à un objectif, je me conditionnais et je me mettais dans un compte à rebours. C'est-à-dire que, pour moi, je devais remplir des cases d'entraînement, d'hygiène de vie, de nutrition, etc., etc. Moi, je me focalisais beaucoup sur mon temps de préparation. C'est-à-dire que tous les ingrédients que je devais réunir pour être performant, il fallait que je les coche en amont de la compétition. Moi, l'objectif, c'est ça. C'était de me dire, quel que soit le résultat qu'il y aura derrière, et quelle que soit la situation que je vais rencontrer, il faut qu'à la sortie de ma compétition, je n'ai pas de regrets. C'est-à-dire que si je suis en situation de pouvoir gagner sur une course, un Paris-Roubaix, un championnat de France, ou une étape du Tour de France, ou n'importe quelle autre épreuve, il fallait que j'ai rempli les cases et que j'ai rempli mon cahier des charges en amont. À partir du moment où j'avais rempli mon cahier des charges en amont, j'arrivais avec des certitudes, j'arrivais avec de la confiance, et après le reste, je montais en agressivité dans ma bulle. C'est-à-dire que je devenais quelqu'un d'agressif. Je pouvais être limite méchant par rapport à l'entourage extérieur. Tout ça pour me protéger et pour me conditionner par rapport à la course que j'allais avoir à effectuer. Si j'avais réussi ça, tout ce qui pouvait se passer à l'extérieur, dans le journal, à la télé, à la radio, à mon époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ce qui était quand même une bonne et belle chose, j'étais conditionné par rapport à l'événement et je n'étais pas je n'étais pas mis en difficulté par rapport aux attentes.
Mais les attentes, c'est les tiennes. Je pense que pour tous c'est à peu près la même chose. C'est le jour où on a compris que les attentes c'était les notes qu'il fallait fixer et pas écouter ce que disaient les autres qui ne pouvaient pas nous connaître et qui avaient peut-être des attentes déplacées par rapport à nous, qu'on a commencé à mieux vivre et qu'on
l'a mieux surtout, vie, c'est de se mettre en situation. C'est-à-dire que à partir du moment où j'avais fait tout ce que je devais faire. Et ce que j'avais à faire pour être prêt pour l'événement, ben j'ai envie de dire, j'arrivais avec des certitudes et des assurances. Même si j'avais l'appréhension de la compétition, mais c'est l'agressivité qui venait s'installer. Et à partir de là, ça déroulait.
Marc, par rapport à Thibaut Pinot, la pression qu'il a pu vivre, comment tu as pu l'aider par rapport à ça? Tu as pu lui...
En allant sur le chemin que je viens de t'évoquer, c'est-à-dire, fais ton travail avant, fais ta préparation... remplis toutes les cases de l'échiquier pour pouvoir être performant. Une fois que tu as fait ça et que tu arrives en compétition, la vie ne dépend pas que de toi. Tu es dans un peloton. On n'est pas comme dans... Par exemple, il y a des différences entre tous les sports. Quand tu fais du 100 mètres, tu fais un 100 mètres, tu es dans ton couloir, tu récites ton 100 mètres. Quand tu es dans un peloton où tu as 180 coureurs, tu récites pas ta propre partition. Tu dépends des autres. Tu dépends du comportement et du positionnement et de l'attitude et du niveau de compétitivité que vont avoir les 179 autres coureurs. Donc tu es obligé d'intégrer la situation de la course et du peloton. Mais à partir du moment où tu arrives à te concentrer uniquement là-dessus et seulement là-dessus, tu peux être performant si tu as rempli toutes les cases. Pour moi, l'important, la clé de voûte de toute performance et de toute réussite sportive, c'est d'avoir rempli toutes les cases et tout le cahier des charges en amont.
Comment
si tu as fait ça, après, c'est la vie, c'est le destin.
Le poids des attentes. On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport sur RMC. Toi, on t'a présenté Fred, le canu, comme celui qui est arrivé après David Douillet. Hein. Donc, il faut gérer avec ça. Non, on parlait de l'après Bernardino sur le Tour de France.
Le problème, c'est le même problème
bien
au tennis.
Sûr, comme au tennis,
on n'a pas gagné le tour depuis 85.
Non, mais toi, tu l'as vécu dans ton corps.
Bah, c'est pour ça que pour aller dans cette histoire-là, et je rebondis sur ce que vient de dire Marc, tu as dit la vie, c'est le destin. La vie vitale, mais la vie, L'apostrophe, AVIS, la vie des autres aussi, c'est leur destin en fait à eux. Et ce que tu viens de dire, c'est ça. Moi pourquoi on m'a dit futur David Douillet? Tout simplement parce que la PQR, tu sais, la presse quotidienne régionale, elle aime bien quand t'es régional. Et moi, j'ai grandi à une heure de route de chez David Douillet, à 10 ans d'écart. Donc le petit Normand, forcément, futur Douillet, etc.
Les mêmes traces.
Et pour te raconter l'anecdote, si tu veux, c'est que quand David a arrêté sa carrière, alors déjà, il y avait un journaliste du Figaro qui est venu nous voir le jour où il part à Sydney.
il nous dit alors, parce que nous on était ses partenaires, il dit c'est le jour le plus triste de votre vie, il arrête sa carrière. Déjà, j'ai compris qu'on n'était pas dans le même monde. Moi, c'était le jour le plus heureux que Douillet arrête, tu vois, qu'on arrête de chuter sur Douillet, c'était le plus grand moment de ma carrière. Donc, on n'avait pas la même vision. Et après, ce qui était énorme, c'est quand David il arrête, on part à Houlgat, qui est pour nous un endroit mythique parce que toutes les préparations mondiales et olympiques sont faites là-bas, beaucoup en tout cas. Et c'est le premier où David n'est pas athlète à Houlgat, en Normandie. Et donc, il y a une équipe de tournage qui vient et qui demande à suivre les poids lourds. Alors nous, on est super fiers, on appelle nos mamans, tu vois, on dit voilà, on va passer à la télé, tout ça, c'est extraordinaire, on va parler de l'après Douillet. Et donc, il y avait Mathieu Bataille, Pierre Robin et moi. Et le reportage, ça a été David Douillet, virgule, et demain, le désert. Et si tu veux.
Il y avait moins de pression, du coup.
Ouais, nous, on est. Nous, on
croyait. D'un certain côté, c'est mieux, peut-être, non?
Écoute, tu sais quoi? C'est là qu'il y a eu rupture. Parce que après, j'ai dit, on aurait dû prendre du dessert plutôt que du désert, tu vois, on est parti sur autre chose. Mais ce que je veux te dire, c'est que, c'est ce que tu dis, Marc, c'est le plus grand sujet, la plus grande réponse à la question de ça, de la thématique du regard extérieur, c'est que le malheur, c'est l'externalisation. On a dit, on m'a dit dans les médias, on a dit de moi de ça, on a pensé ça. Le « on », ça rend malheureux. Par contre, toi, à chaque fois, Marc, que tu as parlé sur les projets pour améliorer, ou toi, ou les personnes que tu as coachées, tu as dit « je dois faire, je dois mettre en place ».
Fred, tu crois que c'est possible maintenant ?
L'internalisation.
Avec les réseaux sociaux, avec le fait que tu sois sans arrêt confronté à ce jugement.
C'est vital, parce que je vais te prendre un autre exemple de décalage. Pour ouvrir un petit peu le débat en dehors du monde du sport et donner aussi des tips aux gens qui nous écoutent. Moi, ce qui m'a servi dans cette histoire, on me disait le Douillet de demain et que j'ai jamais été déjà le Canu d'aujourd'hui en temps de perdre de palmarès. Tu le sais, Fred, moi j'ai perdu 50 kilos. T'as exposé une partie de ta vie personnelle. Moi, j'expose la mienne. J'ai perdu 50 kilos. On m'a dit, je peux plus te parler parce que les gens avaient l'impression que j'étais malade. C'est-à-dire qu'il y a des gens parfois qui ont dû couper la rupture avec moi parce que ils étaient en désaccord avec leur vision sur leur perception de moi. Et c'est parce que j'ai compris qu'en fait on en avait rien à foutre de ce que pensent les gens que j'ai décidé d'être heureux. Et c'est ce que tu dis, Marc. Les projets de vie, c'est les mêmes dans la vie de tous les jours. L'avis des gens autour, il est important de ceux qui t'aiment.
Fred, je suis d'accord avec toi. Et effectivement, l'athlète est
aussi
un homme.
Comment gérer le poids des attentes?
Mais à un moment, il faut quand même se poser la question de se dire qu'un athlète est sous les feux des projecteurs. Tu vis pas exactement la même chose. C'est-à-dire que t'es jugé effectivement toute ta vie courante, sauf que quand tu es athlète, t'es jugé par 50 000, 100 000, 200 000.
Mais quand les gens que tu aimes te disent une chose qui te plaît pas, c'est autant de poids que les médias, non, en fait.
Évidemment. Sauf qu'il faut faire le tri.
Bien sûr. Moi, il y a un autre truc que je dis souvent aux coureurs en plaisantant à demi. C'est arrêter de raconter votre vie sur les réseaux sociaux. Arrêtez de voir raconter vos entraînements. Je disais souvent à Thibaut Pinot, il mettait ses sorties d'entraînement sur Strava. Mais je dis, mais les mecs, vous êtes cons. Pourquoi vous racontez votre vie? Pourquoi vous donnez de l'information à la concurrence? Je dis, moi, si j'étais coureur aujourd'hui, je serais pas sur les réseaux sociaux. Personne ne saurait ce que je fais à l'entraînement. Personne. Quand on commence à donner ces informations sur sa propre vie, on se met en situation ou d'être contesté, ou d'être caricaturé. Ne donnez rien! Ne donnez rien! Si on donne rien, on va pas venir t'emmerder sur les réseaux sociaux.
Mais tu sais très bien. Alors,
Marc, sur
le principe, je veux pas te donner tort. Évidemment que moi tu donnes, moi tu te fais emmerder. Ben voilà. Sauf qu'on est dans cette génération-là
et où tu as besoin.
Je vais vous donner un autre exemple.
Résultat, tu protèges.
Mais c'est important.
Tu protèges
aussi
ta préparation. T'es pas obligé de donner à la terre entière les entraînements que tu fais, les intensités que tu fais.
Sinon, tu génères encore plus d'attente, peut-être.
Tu génères de l'attente, mais aussi tu donnes de l'information à la concurrence.
On peut prendre l'exemple d'un certain Léon Marchand qui, après les Jeux de Tokyo, a produit, ou en tout cas, il y avait une certaine attente en vue de ces Jeux de 2024. Alors lui, il avait la chance d'être à distance, mais tout ce qu'on projetait sur lui, forcément, à un moment ou un autre, ça lui revenait aux oreilles. Et je pense que vous avez, comme moi, tous lu ses déclarations ou son préparateur mental qui a expliqué comment, pendant les trois ans qui ont séparé Tokyo 2021 et Paris 2024, avec ce décalage des Jeux, comment il s'est préparé à être sous les feux de l'actualité, ou en tout cas de devenir une méga star de la natation. Et je me souviens d'une phrase qui avait été dans un article fait par son préparateur mental, qui disait à Léon Marchand: prépare-toi, comment tu veux que ta vie change ou ne change pas après que tu deviennes champion olympique, en fait. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Et pendant quasiment trois ans, même à 10 000 kilomètres de la France, là où il s'entraînait aux États-Unis, en fait, il s'est préparé à aux attentes que pourrait procurer le fait qu'il devienne le plus grand de tous les grands.
Ouais, mais là où c'est intéressant aussi, Sarah.
Et ça, c'est intéressant de se préparer aussi.
Il s'est préparé, mais aussi partir à l'étranger. Et on va conclure à ça.
Oui, il s'est extrait d'une forme d'attente pesante.
Toi, t'as joué en Espagne, Fred, et c'est la pression, tu t'échappes un peu de la pression aussi, quand t'es plus en France.
C'est merveilleux, parce qu'il y a moins d'attente, t'es pas quelqu'un du pays, donc il y a forcément moins d'attente, tu te passes un peu inaperçu, parce que l'Espagne, c'est bien que tu sois proche, c'est assez loin. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à revivre aussi grâce à l'Espagne, parce que j'avais des gens j'avais un club de fans là-bas, j'avais de la presse qui parlait toujours très correctement de moi. Et c'est vrai qu'en France, on a cette tendance à brûler ses idoles aussi. Donc quand t'es au top, ça va, mais on aime bien te critiquer et te rabaisser au maximum.
Dernier mot, c'est très simple. C'est plus facile d'être un coureur cycliste français dans une équipe étrangère que d'être un coureur cycliste français dans une équipe française. Ça, c'est une évidence. Il suffit de regarder l'actualité de notre sport pour s'en rendre compte.
Comment gérer le poids des attentes? On ferme la porte du vestiaire. C'était passionnant de vous écouter. On aurait pu parler aussi de la responsabilité des médias parce qu'on est quand même.
Et du storytelling que tu racontes. Hein, on n'a pas eu le temps d'en parler.
Non, mais attends, tu sais, je me rappelle, je disais tout à l'heure en début d'émission, il y a quelque chose dont je ne suis pas fier. Je me rappelle l'étape que Thibaut Pinot gagne à Pont-Rentruy sur le Tour de France, celle qui le rend connu vraiment aux yeux du grand public. J'étais sur la moto RMC à côté de Marc Madiot qui était dans la voiture au volant derrière Thibaut Pinot. Je vais le voir un moment donné pendant l'étape. Je lui pose la question. Je lui dis, Marc, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la naissance d'un grand champion? Le mec, il est en train de lui mettre une pression de dingue tout de suite, alors que c'est un gamin. Je crois que Marc m'avait dit, non mais attends, la fin de l'étape, on verra plus loin. Donc bah, évidemment, nous les journalistes, on a une grande responsabilité, et on est aussi là pour raconter des histoires.
Marc t'a dit, n'hésite pas à suivre sa préparation sur les réseaux sociaux.
Allez, on revient dans quelques instants, on va revenir sur le terrain et surtout sur les pistes de Formule 1 avec Lewis Hamilton à Monza. Est-ce qu'il a encore le droit à l'erreur? On arrive dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Dans un instant, on va jouer dans les jeux du sport. On va parler de Formule 1 aussi. Mais vous savez qu'on faisait gagner deux places pour Francis Land aujourd'hui dans les grandes gueules du sport. Match mardi, c'est pas pour vous. C'est pour.
Et il nous regarde comme si on avait gagné. Et finalement, il dit non, c'est pas pour vous.
C'est pour Maxime, parce que vous avez fait 32-16.
Ouais, on rêvait là.
Salut Maxime, félicitations.
Merci, bonjour à tous.
Félicitations, Maxime.
Tu vas gagner deux places pour aller voir Francis Land. Tu sais avec qui tu vas y aller déjà ce mardi?
Pas vraiment.
Ah ouais. Il veut pas le dire.
Je vais pas balancer trop vite.
Il a écouté Marc, pas d'infos sur les réseaux sociaux.
Si tu veux aller avec une GG, il y en a quelques-unes, je pense qu'il aimerait aller voir Francis Land. Hein, donc réfléchis. Ouais. Félicitations, Maxime. Donc, tu as gagné grâce à RMC des deux places pour aller voir Francis Land ce mardi à 20h45 au Parc des Princes.
Gagnez vos places pour les matchs de l'équipe de France sur RMC avec EDF. Partenaire majeur de la Fédération Française de Football.
Retour à nos grands débats, un dernier sur le buzzer. Mais d'abord, Hamilton résistera-t-il à la furia rouge à Monza?
Une erreur là de Lewis à la mort du virage numéro 3. Alors la pluie tombait de plus en plus ardemment apparemment sur cette piste. Et là il s'est fait piéger malheureusement. Et il a été tapé le mur avec la Ferrari. Il était derrière Russell, on le rappelle, au 7e rang. Grosse déception, une nouvelle on peut le dire pour Lewis Hamilton. Donc décidément cette saison chez Ferrari, cette saison 2025 est un véritable chemin de croix.
RMC, les GG sur le buzzer.
C'était censé être le mariage du siècle, l'arrivée du septuple champion du monde Lewis Hamilton chez Ferrari à l'intersaison avait fait tourner la tête de tous les fans de F1. 10 mois plus tard, c'est vrai que la réalité est beaucoup moins idyllique. Une victoire en course sprint en Chine en début de saison et puis pas grand chose. Le week-end dernier aux Pays-Bas, sortie de piste et abandon. Sir Lewis reste sur 15 courses sans podium. Il a signé le 5e temps des qualifs à Monza, mais il partira 10e en raison d'une pénalité. Verstappen est en pole devant les deux McLaren. La légende Hamilton est-elle en perdition? Les GG ce dimanche, Grand Prix de Monza à 15h devant tous les tifosi. Tiens, est-ce qu'il a encore le droit à l'erreur, Hamilton? Rapidement, oui ou non, Marc?
Oui.
Fred?
Non.
Fred Le Canu?
Oui.
Sarah?
Ah bah non.
On va accueillir le King, Jean-Luc Roy, qui va nous commenter cette course aujourd'hui à 15h sur RMC. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Georges, salut Sarah, King. Salut Marc et salut les Fred.
Salut.
Jean-Luc, tout le monde y a droit.
Jean-Luc, franchement, il est sous pression, Hamilton, ou c'est un truc de journaliste avant Monza là?
Ah ben écoute, je veux bien qu'on nous mette tout sur le dos, mais non, franchement, tu as rappelé quelques éléments. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Pour le moment, effectivement, en termes de course, on est à 11-2. tu vois, en faveur évidemment de Charles Leclerc qui a réalisé quand même 5 podiums. En qualif, c'est 13-3. Tu vois, le jugement est vraiment sans appel, quoi. C'est une domination vraiment outrageuse, outrageante, tout ce que tu veux. Alors, dans les faits, bah écoute, là, il fait une qualif qui est pas mauvaise, hein. Il est à 117 millièmes seulement, avec effectivement le cinquième temps. Bon, il partira dixième parce que bah il fait une autre bourde. Non seulement il se sort lors du dernier Grand Prix avec quelques gouttes de pluie en Hollande, mais en plus dans le tour de mise en grille, c'est-à-dire les pilotes, tu sais, ont le droit effectivement d'effectuer deux tours, même en repassant par les stands. Et il y a tellement de monde sur la grille. Et puis le directeur de course a bien précisé. Les gars ralentissaient fort parce que c'est un virage en banking très rapide et lui, ah bah oui, ralentit, il perd 20 km/h. Donc bah, il se fait allumer hein, parce qu'il arrive comme un fou sur la grille. Si jamais il a une panne de frein, il rabasse 250 personnes. Bon, c'est une erreur de débutant, ça fait deux erreurs de débutant en un Grand Prix, donc d'où les 5 places. Alors, est-ce qu'on lui met la pression ? Bah, forcément oui, parce qu'il y a une déception, comme tu le dis, il y avait une attente formidable avec le plus grand pilote de tous les temps dans l'écurie la plus mythique. La déception, elle est évidemment là, parce que il ne fournit pas ce qu'il devrait fournir à minima. Et bon, je l'avais dit l'an dernier, c'est toujours facile, ou sur les podcasts, hein, sur le podcast Paddock RMC, son plus grand adversaire, c'est évidemment son coéquipier, c'est Charles Leclerc. Charles, il a signé une pole miraculeuse, mais il l'a quand même signé. Hein. Il est parvenu à se mettre devant tout le monde là il y a pas longtemps, c'était en Hongrie. En Hongrie justement, écoutez les déclarations aussi d'Hamilton qui dit à un moment, c'est ahurissant dans la bouche d'un septuple champion du monde, je ne vaux rien,
je suis inutile,
je ne sais plus où je suis inutile, je comprends que l'équipe me remplace, mais alors écoute, on est en train de célébrer, c'est pour ça que les Ferrari, tu sais, les pilotes sont habillés en bleu, enfin il y a une partie blanche, on célèbre là le premier titre de Niki Lauda. Bah écoute, est-ce que vous imaginez une seconde, vous l'avez connu, hein, Niki Lauda évoquer des propos comme ça, après ce qui lui est arrivé à lui ? Et il va décrocher 2 titres de champion du monde après s'être fait cramer comme il s'est fait cramer. Et puis bon, les exemples sont abondent. Moi, je dis que là, il y a un problème psychologique grave. Alors maintenant, il positive. On a bien compris qu'il était passé entre les mains d'un psy, hein, parce que là, bah non, tout va bien, c'est formidable.
C'est devant tout le monde.
Moi, je réponds à la question. Il n'a pas le droit à l'erreur. Et là, il doit assumer. Alors, il part dixième, mais des remontées fantastiques à Monza, on en a vu. Il doit nous offrir une remontée fantastique. Tu vois, c'est un point tel que puisque on jouait sur Charles Leclerc pour la pole, il en est pas passé loin d'ailleurs, mais il a pas réussi à améliorer. Tu sais, à Monza, souvent, on utilise le deuxième pilote. C'est cruel ce que je suis en train de dire pour aspirer le pilote le plus rapide. Dans les longues lignes droites, on aurait pu demander à Hamilton de faire ça. Ils l'ont pas demandé parce que là, ils ont pensé qu'ils allaient lui mettre la tête sous l'eau. Je vous le fais clair. Hein. C'est exactement ce que Fred Vasseur, en transparent, a évoqué.
Encore un Fred. Hamilton a-t-il encore le droit à l'erreur ? Qui est le plus chaud pour en parler ? Marc Mathieu, il est sur les starting blocks depuis tout à l'heure.
Lewis Hamilton, de par son palmarès, de par son histoire, de par son parcours, a le droit à l'erreur jusqu'à la fin de l'année.
Ah, il y a un timing quand même.
Pour moi, il y a un timing qui lui est dû par rapport au rang qu'il représente dans le sport automobile et dans la Formule 1. Il s'appellerait Colapinto. Il y a longtemps qu'il ne serait plus dans le baquet. Mais oui. Il s'appelle Lewis Hamilton. Il est ancien champion du monde, pilote référence, et il a gagné ce droit à l'erreur jusqu'à la fin de l'année. Il est clair que si dans les 2-3 Grands Prix qui viennent, la question de l'année prochaine se posera inéluctablement.
Marc, moi j'ai une question par rapport à ça. Tu vois, tu viens de poser une question, enfin qui me pose une question. C'est-à-dire qu'en gros, tu aurais un Lewis Hamilton met du vélo dans ton écurie et qui te dit je suis nul, je comprendrais qu'on me remplace et j'arrive pas à en mettre une devant. Tu le garderais dans l'équipe ?
Oui.
Tu dirais
jusqu'à la fin de la saison. Alors,
donc tu irais contre quasiment sa volonté parce que lui il a annoncé.
Il a dit je suis nul et je ne sers à rien. Il y a toujours des moments quand tu es athlète, quand tu es dans une période difficile où tu peux te dire à toi.
Ah oui, tu peux te dire à toi, mais tu peux pas l'exprimer. Tu peux pas
l'exprimer.
J'ai été nul. C'est pour ça que la question que moi je me pose, elle est quand même en miroir. C'est pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question Ferrari a-t-il encore le droit à l'erreur ? Parce que là, on ne parle que d'Hamilton, qui est en difficulté, qui est en souffrance. Mais Ferrari, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'ils font pour que ça se passe mieux ? Qu'est-ce qu'ils
mettent en place par rapport à son
Ce que je veux te dire, c'est que ça se fait à deux. T'as ouvert ton très bon sonore, Georges, par une notion de mariage.
C'est, le mariage, ça se fait à deux. Là, on dit Hamilton, il n'y arrive pas. Mais en face, quelles sont les stratégies? Tu parles, et Fred, t'as posé la question à Marc, et je la trouve très intelligente. Dans un contexte d'équipe, comment tu verrais les affaires?
Ouais, mais bah là, c'est Leclerc est plus performant, hein.
Mais Ferrari, quelle individualisation ils ont sur Hamilton? Tu vas chercher la légende, tu vas chercher.
Exactement.
Donc, tu prends tout de Hamilton.
Exactement. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien?
Les qualités de vitesse du moment.
Tu vis pas dans l'histoire. Ça me gêne. Tu vis pas dans l'histoire, quand même.
Sarah, pour toi, il a plus le droit à l'erreur.
Chez Ferrari, tu vis quand même avec l'histoire.
Tu vis avec, mais tu ne vis pas que de l'histoire.
Ouais, Sarah.
Non, mais justement, tu vis avec l'histoire. Quand tu gagnes chez Ferrari, c'est mieux qu'ailleurs. Et quand tu n'arrives pas chez Ferrari, je pense que c'est pire que dans n'importe quelle autre écurie. Et aujourd'hui, Lewis Hamilton, tous les Lewis Hamilton qu'il est signé chez Ferrari, c'était aussi pour voir ce qu'il était capable de faire dans une autre écurie que celle qu'il a vue aller chercher ses sept titres de champion du monde.
Ouais, donc, mais ça va plus loin que ça avec Ferrari.
Mais oui, mais il y a quelque chose de déceptif aujourd'hui, de mon petit point de vue, de ma petite lucarne. Je me disais, ok, il est pas aussi performant qu'avant. Il doit être quand même le pilote qui doit aider Charles Leclerc, ou en tout cas c'est le pilote numéro 2. Mais même en tant que pilote numéro 2, je trouve que c'est que la saison, elle est catastrophique.
Tu peux pas l'imputer qu'au coureur. C'est là où je veux en venir. Il y a Ferrari. Ferrari n'a pas su s'adapter plus. Hamilton, il faut aller le chercher.
Ouais, mais chez Mercedes, il a eu du mal aussi. Il a eu beaucoup de difficultés. Et Jean-Luc te sera le premier à dire, c'était compliqué chez Mercedes. Il dirait que chez Ferrari, c'est compliqué. À un moment, je te dis que c'est un peu la question d'hier.
C'est tout ce que je dis.
Sarah.
Vous avez posé une question hier dans l'émission. C'est s'arrêter à temps. Pour moi, la question, elle est là. Lewis Hamilton, est-ce qu'il faut qu'il s'arrête à la fin de l'année ou pas, en fait? Est-ce qu'il fait la saison trop chez Ferrari?
Oui.
Non, mais moi, c'est une question que je me pose et je suis plutôt dans le oui aux trois quarts de la saison.
Là où je vais aller dans la suite de ce qu'a dit Jean-Luc, il est toujours avec nous, hein, Jean-Luc, Jean-Luc, c'est on est en mesure d'attendre peut-être d'un Lewis Hamilton, comme on le voit Max Verstappen surperformer avec sa Red Bull et être devant les McLaren, avoir Hamilton faire quelque chose d'impactant dans la saison. Effectivement, c'est pour ça qu'on dit, Jean-Luc, que la pression est sur lui aujourd'hui à Monza, parce que même s'il part dixième, il faut qu'il fasse un truc pour marquer les tifosi, même s'il finit septième. Qui tente des choses, qui nous donne quelque chose de marquant pour la saison.
C'est Lewis Hamilton, il peut pas être neutre.
Voilà. Voilà, alors vous parliez des tifosi, effectivement, et le rendez-vous de Monza, il est fantastique, parce que Charles l'a emporté deux fois, hein, vous le savez, devant les tifosi, et c'est comme ça que se construisent les légendes en rouge. Jean Alesi, qui avait signé une pole à Monza, il a jamais gagné à Monza, il a gagné qu'une fois, vous le savez bien, dans sa vie au Canada, mais c'est une légende de Ferrari. Là, il faut qu'il assume son rang. Moi, c'est ce que je suis en train de dire.
Jean-Luc, c'est ça la question que je voulais te poser. Est-ce que Ferrari a tout mis en œuvre pour qu'il soit au top de sa performance? C'est ça que je veux juste poser. Parce qu'on parle d'Hamilton.
Bah, tout a
mais
été
vous
fait
pensez bien que oui. Vous imaginez le transfert. Enfin, je vais être obligé là de parler dessous. Je sais, c'est affreux, mais enfin, c'est quand même le cas. C'est de la Formule 1. Hein. Il prend entre 60 et 80 millions par an. Par an, il a signé sur 2 ans avec des objectifs industriels, parce qu'encore une fois, je vous fous mon billet qu'il va y avoir une Ferrari Lewis, enfin peut-être, en tout cas c'était prévu, ou une Ferrari Hamilton, sur laquelle il va toucher également des royalties. Enfin, c'est tout un projet industriel. Et puis vous l'avez dit, regardez la mise en scène de son arrivée, effectivement, à Fiorano, devant la maison. Enfin, on a eu droit à tout là, hein. C'est vraiment le festival.
Faut assumer derrière.
Ah bah faut assumer derrière. Et là, moi je dis, pour le moment, il n'assume pas, surtout même dans ses propos et son attitude. Il n'a pas le droit de jouer les midinettes en disant « Ah ben ça va pas bien, j'ai un coup de mou ». Non, pas lui. Et pas quand on célèbre les 50 ans du titre de Niki Lauda, qui l'année d'après connaît un accident effroyable, revient moins de 35 jours après à Monza justement, se bat comme un chien jusqu'au terme de la saison 76, vous connaissez l'histoire. C'est pas possible, on est dans cette lignée-là quand même.
Si avec ça vous n'avez pas envie d'écouter Jean-Luc Roy à 15h tout à l'heure pour voir si au premier virage Hamilton va doubler 8 gonzes et faire un truc impactant.
Ben voilà ce qu'on attend de lui.
Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Je rappelle que c'est Max Verstappen qui sera aux commandes tout à l'heure, et on a hâte de t'écouter, Jean-Luc. On sera avec toi. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Luc.
C'est toujours un plaisir.
Les GG dans quelques instants. Vous allez sur la grille de départ pour vous disputer les jeux du sport avec les auditeurs. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
C'est la dernière ligne droite des grandes gueules du sport. Tout de suite, on joue dans les jeux.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2, vous allez défendre un auditeur. On a réparti les équipes aujourd'hui avec Maxima Bollin, Fred Weiss est avec Marc Madio et Sarah Pilkowski avec Fred Le Canu.
C'est un honneur pour moi.
Voilà les équipes.
Je ne supporte que la victoire.
Oh, oh là là. Ça c'est l'état d'esprit, ça. Ça c'est ce qu'on veut.
Sauf à Roland Garros.
Je te confirme.
J'ai perdu.
Attention Fred, tu sors les dossiers là.
On accueille nos auditeurs qui vont participer avec vous. Bonjour Joël, bonjour Damien.
Bonjour.
Hello, salut.
Joël, c'est toi qui as appelé en premier. Tu choisis ton équipe avec Madio Weiss ou Pilkowski Le Canu.
Madio Weiss
avec Marc.
Donc, je suis d'origine de Limoges, alors je vais jouer avec les histoires, c'est très bon choix
parce que Marc Madio.
Il y a même des auditeurs à Limoges.
Mais j'ai l'impression.
On a la radio, oui, on a la radio.
Attention avec ces blagues, Sarah, tu vas te faire limoger.
On a que les auditeurs de Limoges qui nous appellent.
Mais oui, c'est ça. On aime ça.
Le week-end prochain, il y a Luc Leblanc qui va nous appeler. Bonjour. Allez, c'est parti. Question à une seule réponse. Je vous rappelle. Donc, si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Question Formule 1. Qui a gagné à Monza l'an passé ?
Leclerc, Ferrari.
Charles Leclerc, ça. Un point pour l'équipe Pilkowski Le Canu. Ah oui, Marc.
Il faut y aller.
Hein. Il va falloir.
Sarah, tu changes rien, tu restes sur le même rythme.
Et toi non plus, Fred.
Je ne change rien, je reste sur le même rythme.
Question pour vous, les auditeurs, Joël et Damien. Je vous rappelle, vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. OK ? Comme ça, on comprend qui a donné la réponse en premier. Votre réponse et votre prénom derrière. Les Bleus du rugby jouent un match décisif ce soir à la Coupe du Monde. Contre qui ?
Afrique du Sud, Joël.
Joël, Afrique du Sud. Ben là, il n'y a aucun doute. Un partout, il est avec vous.
Alors, normalement, c'est le prénom et après la réponse.
On a changé parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas clair. Ah là, par contre, Fred Le Canu, si tu n'écoutes pas les consignes.
On peut enlever des points.
J'écoute, mais je triche. C'est tout, j'assume.
Question à plusieurs réponses possibles. Vous pouvez en enchaîner plusieurs. Un partout entre vous. Le Stade Toulousain reprend ce soir à Clermont à 21h05, à suivre sur RMC, évidemment. Combien de fois Toulouse a soulevé le bouclier de Vénus ?
24,
Marc Madio.
Impressionnant.
Question.
Fred, t'es là ?
À un moment donné, je surveille tes arrières.
Essaye de comprendre les questions.
Stade Toulousain, déjà, j'étais en train de me représenter la géographie. Deux secondes.
On a dit qu'il
ne devait rester qu'un Fred. Hein. Attention, il y a d'autres choses qui se jouent. Question à une réponse.
Kylian Mbappé,
pour vous les GG, oui. Okay. Kylian Mbappé a égalé Thierry Henry en
51. Yes.
Bon, Sarah, à un moment donné, je vais pas pouvoir porter le truc tout seul.
Non, mais il faut que je vous raconte quand même l'envers du décor. Fred Weiss, il arrive le matin, il dit de toute façon, je vais être nul. Alors que le mec, il a dû lire tout le journal de A à Z.
Bah, c'est surtout qu'il a lu les questions sur ton bureau.
Non.
Question. Ouais, mais il est tellement grand qu'il peut mettre 10 questions de
la chaîne d'à côté.
Joël et Damien, c'est à vous. Je vous rappelle qu'il y a un ghetto blaster de la marque Muse à gagner. Je vous rappelle, donc vous donnez votre réponse et votre prénom derrière. Les Bleus du volley, les filles se sont inclinées en quart de finale du mondial. Face à qui ?
Allez. Fred, il nous a fait la publicité le week-end dernier.
Face à qui les Bleus du volley se sont inclinés au mondial ? Les filles.
L'Italie, Joël.
Non, c'est pas bon, Joël. Ouais, Damien, c'est pour toi.
Espagne, Damien.
Ah non, c'est pas bon, non. C'était le Brésil.
Mais c'était le Brésil.
Même moi, je l'avais. C'est pour te dire que là, c'est pas normal.
On reste à 3-1 pour l'équipe Madio Weiss. Question à plusieurs réponses. Vous avez droit à plusieurs réponses. La France a affronté l'Ukraine. C'est pour les GG, hein, Sarah. C'est pour toi.
Oui.
La France a affronté l'Ukraine ce vendredi, affrontera l'Islande mardi dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde. Oui, mais. Quel est le dernier adversaire du groupe D de la France ?
L'Azerbaïdjan.
L'Azerbaïdjan qui a été battu 5-0 par l'Islande.
Tu peux me le redire, s'il te plaît ?
L'Azerbaïdjan.
Je ne connais pas un pays qui s'appelle Brabadjan.
Et tu devrais visiter.
Je connais l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, mais pas le Baratadjan. Le Baratadjan, je suis désolé. Trouve-moi le Baratadjan. Trouve-moi le Baratadjan sur une carte.
4-1 pour l'équipe Madio. Question à élimination. Il y a 3 points en jeu, donc il y a la possibilité de revenir. Je vous rappelle le principe des questions à élimination. On va aller à tour de rôle sur des réponses. Si jamais vous vous trompez, vous êtes éliminé. On ne joue pas par équipe, on joue par personne. Donc vous représentez le problème. Je veux que vous me donniez les lieux des Coupes du Monde de football. Où est-ce que la Coupe du Monde de football a déjà été jouée ? On va commencer par Sarah. Donne-moi un pays.
Au Qatar.
Qatar, c'est bon. Fred Weiss.
En France.
En France, c'est bon, c'était en 98. Fred Le Canu.
En Allemagne.
En Allemagne, Allemagne 2006 et 74, Allemagne de l'Ouest. Allez, je le prends. Marc Madio.
Au Brésil.
Brésil 2014. On revient avec toi, Sarah.
C'est qui sont passés ou qui vont
passés,
avoir lieu?
Passés, passés. 5, 4,
Russie.
3, Russie, c'est bon. Attention, ça, Fred Weiss.
En Italie.
En Italie, bien sûr, 90, avec les Allemands sacrés. Fred Le Canu.
En Angleterre.
En Angleterre, bien sûr, la seule victoire de l'Angleterre en 66. Marc Madio.
En Argentine.
En Argentine, 78, c'est avec la junte militaire. L'Argentine qui gagne sa première étoile. Sarah Pitkowski.
Bah, l'Espagne.
L'Espagne, 82, bien sûr. Oh, Séville, 82. Terrible. Fred Weiss.
Wow.
5, 4. 3.
Au Pérou.
Non, au Pérou. Terminé. Fred Le Canu.
Portugal.
Portugal. Et non, on n'a pas le Portugal. On a le Portugal ou pas? Non, non, on n'a pas le Portugal.
Si, si, Portugal, jamais. Portugal 62.
Portugal à venir.
Portugal 62 avec le Brésil 4-0 en finale. Tu rigoles ou quoi?
2062.
Il reste en jeu plus que Marc Madio et Sarah Pitkowski. Attention, vous êtes dans des équipes différentes en plus.
Allez, Sarah.
Ouais. C'est à moi?
Non, Marc. Suède.
En Suède. Ah ouais, bien sûr. Pelé 58. Sarah.
Bah, la Corée du Sud.
Corée du Sud, allez, ça passe. Marc.
Mexique.
Mexique, c'est bon. Sarah, 3 secondes pour répondre.
Japon.
Ouais, Corée du Sud, Japon, attention. Allez, j'accepte. Marc.
Bah oui.
États-Unis.
États-Unis, bien sûr, 94. Sarah.
Canada.
Eh non, Canada, c'est pas passé. Canada, c'est à venir.
Mais c'est à venir avec les États-Unis.
Déjà passé, c'est terminé. C'est l'équipe Marc Madio, Fred Weiss qui s'impose. 7-1. 7
ben oui, c'est pas encore.
Sarah, il faut jamais avoir raison trop tôt, mais pour moi, c'est toi qui as gagné.
Joël, je te félicite. Joël, c'est toi qui gagne le Ghetto Blaster de la marque News.
Merci Fred et
Marc.
Bah oui.
Monsieur Madio. Ah, félicitations. Merci beaucoup, les grandes gueules du sport. Marc, Fred, Sarah, Fred Le Canu, on se retrouve.
Bon dimanche à tous.
Bon dimanche.
À très vite.
À très vite. Bon vous avez été excellent. Tout de suite, on continue sur RMC, c'est les paris RMC.